rethink, react.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je veux vous partager cet épisode, mais voilà, faute de temps, il vient seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, pas d'entretien, mais une conférence. C'est la conférence du premier dyslexique diagnostiqué en Suisse, le même qui est devenu prix Nobel en chimie en 2017. Et oui, c'est Jacques Dubochet. En décembre 2023, il y a 3 mois, le 6 décembre 2023, le Musée d'histoire naturelle de Fribourg avait organisé la conférence scientifique et citoyen donnée par Jacques Dubochet. Avec beaucoup d'humour, il nous promène dans l'histoire de sa vie, aussi dans les coulisses de la science. Je me suis retrouvée dans l'histoire de Dubochet à plusieurs reprises, typiquement quand il dit « savoir me fait du bien ». Savoir et comprendre m'a aussi toujours aidée. Même si, depuis toute petite, j'ai souvent entendu que ignorant, nous sommes plus heureux, je suis quand même convaincue que pour avancer, il faut savoir. L'histoire de Dubochet nous rappelle aussi l'importance du métier d'enseignant et comment ces personnes peuvent faire une différence énorme dans la vie d'une personne. Enfin, je vous laisse avec lui, profiter de sa conférence et son histoire de vie. Bonne écoute et à plus tard à la fin de l'épisode.
Je vous remercie beaucoup. Je suis très touché d'être ici. Ça pourrait être une des dernières fois que je viens donner une conférence comme ça, parce que on se déglingue un peu trop vite. Je vais vous parler de 2 choses. On finira par l'actualité, la situation du monde. Et puis, je vais vous parler d'un prix Nobel avec une essayant de clarifier que l'ingrédient principal du prix Nobel pour la plupart des gens, c'est beaucoup de chance. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance. Et voilà. Donc, j'ai grandi en Valais. Mon papa construisait des barrages, en particulier le barrage de Cleuson, et nous habitions à Basse-Linda, à la fin des années, toute fin des années 40. Et vous savez, un village du Valais à cette époque, c'était pas comme maintenant. Mais pas du tout. Et moi, j'avais de la peine à me fondre dans ce milieu. Vous savez, le fils de l'ingénieur, enfin les enfants de l'ingénieur, ils étaient, vous voyez, quand il faisait froid, on allumait le poêle dans l'école, et les enfants de l'ingénieur, automatiquement, on les mettait vers le poêle, tandis que les autres enfants qui se tenaient pas très très bien, ils partaient automatiquement vers la fenêtre. C'était l'organisation de l'école. Et puis, moi j'étais un peu timide, et puis on commandait tout le temps. Vous savez, les vacances. D'abord, l'école c'était spécial. Quand il pleuvait dehors, on avait congé parce qu'il pleuvait dedans. Et puis, il y avait aussi les vacances d'été. Et les vacances d'été, c'est 6 mois. Alors là, nous partions plus haut dans la montagne, plus l'endroit où travaillait mon papa, et on était complètement perdus dans cette vallée de Cleuson. Et c'était une vie extraordinaire. Vous pouvez imaginer le gamin qui a devant lui cette longue, immense prairie qui descendait jusqu'à la Prince, et puis les jeux dans la Prince, très prudemment, parce que ça peut être dangereux. Et voilà, c'est là que j'ai grandi. Puis, j'ai découvert le monde. Et j'ai découvert une chose très importante, c'est que j'avais peur la nuit, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Mais j'avais une méthode pour me sortir de ça. L'école proposait de mettre sur au-dessus de son lit une petite figure d'un saint quelconque pour trouver de la force et puis n'avoir pas peur. Ça me convenait pas tellement, ça ne marchait pas tellement, mais j'avais besoin de comprendre. Et vous savez, c'est un souvenir qui m'a profondément touché. Voyez, je suis là. Là, ça c'est la terre qui tourne, le soleil est là-bas. J'ai compris ça. Je devais avoir 6 ans, peut-être un petit peu moins, mais pas beaucoup. Et puis, alors la terre tourne, moi je suis là, et demain matin, je serai là, au soleil de nouveau. Et cette vision de comprendre ceci, ben, c'est un peu l'exemple de ce qui m'a aidé à comprendre. Comprendre, c'est pas parce que c'est intéressant. Comprendre, pour moi, c'est parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour la vie. Et puis, tenez-vous qu'après, il soit devenu physicien. Mais il y a eu un petit épisode entre deux. J'étais donc mauvais à l'école et doué d'une mauvaise mémoire. Et il y a eu, quand je suis arrivé au collège scientifique, c'était bizarre que j'ai pu entrer au collège scientifique de Lausanne. Le directeur a été informé que je faisais des notes, des fautes bizarres. Et il a fait analyser le cas par un psychologue, le chef du service là, de psychologie des gymnases. Et le bonhomme a trouvé, ça s'appelle un dyslexique. Et c'était le premier dyslexique Gestampelt, authentique du canton de Vaud. Ce qui m'a permis deux choses. D'une part, de passer d'année en année, quelles que soient mes notes. Et puis, deuxièmement, d'utiliser ça comme un formidable oreiller de paresse et ne rien faire. Le directeur, M. Notz, a changé, est parti pour un autre poste, peu de semaines, ou peu de mois en tout cas, avant les examens de fin de scolarité obligatoire, la fin du collège. Et puis, ben voilà, et le nouveau directeur de l'école n'a pas trouvé ça très drôle, m'a fichu dehors. Propre en ordre à 2 mois de l'examen de fin de scolarité obligatoire. Avec rien derrière. Ah, pas rien, non. J'avais eu un professeur de travaux manuels qui m'avait beaucoup aidé à construire un télescope. Un petit télescope de 15 cm, mais vous savez, un vrai télescope, un télescope que l'on polie soi-même. Et ce télescope classique de tous les petits astronomes amateurs. Mais voilà, ça c'était ce que j'avais. C'est que beaucoup plus tard que je me suis rendu compte combien ce télescope avait été prémonitoire quasiment. Et puis ce professeur de travaux manuels qui s'était intéressé et qui m'avait beaucoup aidé, m'a été, je garde un souvenir évidemment, ému. Voilà, sur ce, mes parents ont pris une décision remarquable. Ils ont dit, aïe, ça va pas comme ça, mais lui, il est pas bête. Il devrait pouvoir quand même faire quelque chose. Au fait, c'est bizarre. Ma grande sœur, ma maman surtout, avait exprimé déjà à cette époque que toi, tu auras un prix Nobel. C'est intéressant de savoir comment ça a pu se faire. Bon, je pense que ça se comprend, c'est bien. Moi, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que je voulais. Et puis, ça se savait. Et j'étais toujours là. Quoi? Comment? Et ça, comme je vous dis, c'est pas parce que j'aime savoir. C'est parce que savoir me fait du bien. Bon, sur ce, mes parents ont pris cette décision forte. Vous connaissez Appenzell, Rode Intérieur, ou Oui. Eh bien, il existe là. Vous savez, c'est une jolie c'est un joli paysage de plus hautes montagnes, mais de petites montagnes, et où partout sont réparties des belles fermes. Et il y a 150 ans, plus de 150 ans, l'État avait construit un gymnase, un beau collège, au milieu, à Krogen. Et puis, l'idée, avec un internat, et l'idée, c'était que les enfants des fermes venaient passer la semaine à l'internat et rentraient pour le dimanche. Et cet internat à qui, avec le sérieux des Appenzellois et la qualité de leur enseignement, eh bien, a acquis une grande notoriété. Ce qui fait que tous les familles riches qui avaient un descendant qui tournait mal, eh bien, on l'envoyait à Krogen. Et voilà. Alors, je me trouvais encore avec quelques-uns qui tournaient mal de Suisse romande. Et voilà. Alors, il y a beaucoup de souvenirs de ce temps crucial pour mon développement. Il y avait en particulier le directeur du collège enseignait l'histoire. Et sa méthode de l'enseignement, c'était de se promener dans la classe en racontant l'histoire. Et il racontait bien. Tout le monde était... Voilà. Et puis, quand je suis arrivé, il a changé sa méthode. Il l'a divisé en deux, presque complètement. Et il racontait l'histoire en allemand, puis il venait vers moi et il me racontait ce qu'il venait de dire en français. Et il a fait ça longtemps, longtemps, pendant des mois et des mois, mais toujours en raccourcissant sa partie. Et à la fin, il marquait trois mots au tableau noir, trois mots en allemand. Voilà, ça c'est ce que tu ne vas pas oublier. Et puis voilà. Vous voyez, un enseignant comme ça, c'est quand même pas mal. Hein. Et puis, je suis resté une année et demie là-bas. Pif! Et voilà, ben, ça a bien été. Je suis reparti au bout d'une année et demie. J'ai été continuer dans une boîte à bachot. Vous voyez, la chance d'être dans ce milieu qui croyait que le gamin pouvait faire quelque chose, qui l'a soutenu sans hésitation, et ben alors, voyez, et aussi un milieu culturellement très, 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 très élevé, mais pas très riche, mais enfin, des bons bourgeois. Et voilà, sur ce, la suite était tracée. Mon papa avait fait était ingénieur civil, à l'EPUL, l'École Polytechnique de l'Université fédérale, pour construire ses barrages. Moi, je voulais faire l'EPUL aussi, parce que j'étais un bon fils. Mais moi, je voulais pas faire de l'engineering, je voulais faire de la physique. Et voilà, j'ai fait donc la physique à l'EPUL. Et en deuxième année, donc vous avez compris, moi je voulais devenir chercheur, hein, ça n'avait pas de doute. Et en deuxième année, cher professeur Morel, je lui ai demandé, mais maintenant, j'aimerais préparer mon doctorat, en deuxième année. Et chez qui est-ce qu'il faut que j'aille? Et puis il m'a dit, oh là, je connais un petit super à Genève, là on a fait quelques photos ensemble, il est très bien, Kellenberg, là, laboratoire de biophysique à Genève, c'est tout nouveau, hein. Kellenberg, il faut savoir, c'est le créateur, on peut dire que c'est le créateur de la biologie moléculaire en physique. Lui, il est physicien et il travaille sur les bactériophages et la microscopie électronique. Et quand j'ai été chez lui en deuxième année de physique, et lui, il m'a dit, super, super, oui, j'ai un post-assistant à disposition, tu peux venir tout de suite. Oh, mais non, moi, je dois finir mes études, j'en ai encore pour 2 années. Alors, il a dit, c'est sûr que il est parti, M. Kellenberg est parti aux États-Unis, et 2 années plus tard, il est de retour, et moi, j'étais aussi de retour chez lui, et puis il a trouvé où il y est. Et il m'a trouvé une place et j'ai commencé ma carrière de doctorant là-bas. Et vous voyez, En allemand, on parle de Doktorvater. C'est le directeur de thèse. Et il y a une vue plus élevée de la notion de directeur de thèse. Vous savez, actuellement, ce que je vois autour de moi, c'est pas très drôle. Et le chef de thèse, il voit pas très souvent son assistant ou son doctorant. Et puis, il contribue pas vraiment. Tandis que là, eh bien, on était ensemble. Et il m'a donné la responsabilité d'un vieux microscope. Et puis, on était tout le temps ensemble, quoi. Et puis, on était à peu près 4 ou 5 doctorants, et voilà. Et puis, c'était un labo intéressant. Dans 2 bureaux plus loin que le mien, il y avait Werner Arber, qui était en train de faire des découvertes intéressantes qui lui ont valu pour après le prix Nobel. Et vous voyez, il y avait une ambiance de conquête. Et vous savez, il y a des études récentes, très récentes et nombreuses, qui ont montré la filiation des prix Nobel. Mais ils viennent tous de mêmes universités, ils viennent tous de mêmes chemins. Et il y a des chemins qui vous y mènent et des chemins qui vous y mèneront pas. Et voilà, moi j'étais dans un bon chemin, un peu par chance, beaucoup par chance, et puis la chance qui a bien tourné. Voilà, je continue à travailler avec Kellenberg, c'est comme postdoc, et son fils est maintenant un ami très cher, qui est très engagé dans XR. Vous connaissez XR? C'est un club intéressant. Oui. Eh bien, ensuite, j'ai obtenu un poste dans le tout nouveau laboratoire européen de biologie moléculaire qui était en train de se créer à Heidelberg. Et le directeur de cet institut, c'était John Kendrew, l'homme qui a découvert, qui a le premier fait la reconstruction d'une protéine par diffraction des rayons X. Et ça, c'était différent. Lui, s'était entouré d'une vingtaine de jeunes qu'il voulait être ambitieux et coopératifs. Donc, il voulait qu'ils travaillent ensemble, parce que quand on arrivait là, on recevait une mission, tu exécutes ton projet, tu as tout ce qu'il faut pour faire ça, et tu parles avec les autres. Et voilà. Vous voyez, cet institut, il y a eu 3 prix Nobel dans cet institut en quelques années. Au lieu de donner 3 prix Nobel, ils auraient pu en donner 1 à l'institution. Ça aurait été une bonne idée. Et voilà. Moi, j'avais choisi comme thème de garder l'eau dans un microscope électronique, mais en la refroidissant pour qu'elle ne s'évapore pas. Le problème est donc simple. Les électrons qu'on utilise pour faire des images, au lieu de mettre la lumière, on met des électrons, eh bien, ces électrons ne traversent pas l'air. Et donc, la colonne du microscope doit être sous vide. C'est pas compliqué. Donc, vous et moi aussi, on est tous faits d'abord de flotte. Et si la flotte s'en va, on n'est pas drôle. Alors, 50 ans de microscopie électronique avaient fait beaucoup d'efforts pour quand même conserver la structure, même si l'eau est partie. Alors, il y a eu de magnifiques idées, de magnifiques succès, mais enfin, c'était toujours sans eau. Un collègue, un cher ami, qui est toujours resté de Cambridge, qui à cette époque collaborait avec un autre de ses chers amis, l'autre c'était Richard Anderson, il a eu le prix Nobel avec nous, et puis et l'autre c'était ce microscopiste était Nigel Unwin, et lui il cherchait aussi comment faire pour conserver les matières comme si elles étaient dans l'eau, et lui il avait remplacé l'eau par du sucre. Et si on met beaucoup de sucre, eh bien, l'eau ne peut plus s'évaporer parce qu'elle est attachée au sucre. Et au fait, ça a été le premier à obtenir, en collaboration avec Richard Anderson, la première structure d'une protéine à une résolution moléculaire. Et c'est, voilà. Moi, j'essayais d'une autre manière, j'essayais de garder l'eau, et puis c'était mon projet, et la garder à froid. Alors, en refroidissant assez bas, à moins 120, l'eau s'évapore plus sous vide. Alors, mais malheureusement, vous savez, l'eau à moins 120, c'est pas de l'eau, c'est de la glace. Et donc, nous essayons de... Ah, intéressant. Il y a un monsieur qui s'appelait Basile Luyet. Ouf, je me dépêche. Je vous dirai quand même ceci, puisqu'on est à Fribourg. Basile Luyet de Savièse était aussi un mordu de science. Il ressemblait peut-être pour ça. Et lui, il voulait comprendre tout le temps. Il enseignait à l'école catholique de Genève. Et il était prêtre, il a fait sa prêtrise à Fribourg. Et cet homme a travaillé justement pour la conservation par le froid. Toutes ces méthodes qui ont débouché sur la lyophilisation, etc., c'est lui. Toutes ces méthodes pour la conservation des ovules et du sperme, c'est lui. Et puis, il a donc, avec des scientifiques ses élèves de très grande valeur, ils ont étudié d'essayer de geler 100 cristaux dans le sort, ou bien que les cristaux ne fassent pas de dégâts. Et ils ont développé beaucoup de théories là-dessus, ils ont beaucoup travaillé, ils sont arrivés avec bien d'autres, des théoriciens sauvages, vous savez, des théoriciens durs de comme fer, eh bien, ils sont arrivés à la conclusion que l'eau ne peut pas être gelée sans cristalliser. On ne peut pas refroidir l'eau sans qu'elle cristallise. Ça s'appellerait la vitrification, ça veut dire transformer l'eau en un solide comme du verre qui n'a rien de cristal. Et c'était démontré bien clair. Sur ce, nous étions à Heidelberg et un jour, c'était facile. On prend des grilles de microscopie électronique. 3 mm de diamètre, c'est des grilles. Et puis, avec une pipette, on dépose un peu d'eau dessus ou d'un produit de bactéries ou des virus dans de l'eau. Et puis, on vient avec un buvard et on enlève toute cette eau. Non! Si on vient comme ça, avec tout simplement comme ça, pendant une seconde de pression, toute la goutte part dans le buvard. Ah! Non, pas toute. Il reste la dernière petite couche qui est horriblement difficile à enlever, mais la dernière petite couche. C'est un dixième ou un centième de micromètre. Alors, une protéine est là-dedans. Et puis, quand on a ce film ultra mince, on laisse tomber dans quelque chose de froid. D'habitude, dans de l'azote liquide, c'est facile, c'est tellement facile l'azote liquide. Mais, ça cristallise. Et puis un jour, mon collègue, l'ingénieur de notre groupe, qui s'appelait Alastair McDowell, un Écossais, eh bien, lui, il dit, bon, s'il y a quelque chose, on va les faire tomber dans de l'éthane liquide. Et vous savez, vous avez peut-être déjà vu l'azote liquide. Si vous laissez tomber l'azote liquide par terre, elle va partir partout. Si vous la laissez tomber sur votre main, elle va s'agiter, elle va disparaître. Elle ne vous gèle pas parce que la goutte d'azote liquide flotte sur la surface parce qu'elle s'évapore. Elle s'évapore contre tout ce qui est chaud. Tandis que le méthane, l'éthane, plus, c'est une huile. Et vous savez, si vous recevez une gouttelette d'huile sur le doigt, ben ça fait une cloque. Tandis qu'une goutte d'azote liquide sur le doigt, ça fait rien du tout. Alors l'idée, c'était, ben, on va essayer avec de l'éthane liquide, puis il m'appelle au microscope, et puis on voit une jolie bulle, une petite goutte, et on ne savait pas ce que c'était. C'était à moins 200, et on voit cette goutte, et C'est quoi ça? Lui, il pense que c'est de l'état liquide. Moi, je connaissais un petit peu mieux la physique de l'état liquide. Non, ça pouvait pas être ça. Parce qu'il serait loin. Non, c'est quoi? Alors, c'est vrai. Bon, une expérience qui marque. Alors, on va dire, on va chauffer. On va chauffer, laisser chauffer, c'est-à-dire arrêter le refroidissement. Et tout à coup, quand on est arrivé à moins 135, mais en une seconde, la goutte s'est transformée en un énorme, multicristal, des milliers de mini-cristaux qui étaient là. Et puis les cristaux, vous savez, ça s'analyse très facilement. Ainsi, on pèse sur, dans le microscope électronique, on pèse sur un bouton et le microscope devient un diffractomètre. Et ainsi, on a les informations de la diffraction qui sont dans le cadre de cristaux beaucoup plus simples. Et on voyait tout de suite, c'était une eau qu'on connaissait bien. Quand on la chauffait, c'était de la glace cubique. La glace cubique, c'est de la même chose que la glace hexagonale, juste avec un petit changement. Quelquefois, très 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 haut dans l'atmosphère, on détecte des nuages un peu spéciaux qui sont faits de glace cubique. Mais le plus souvent, c'est de la glace hexagonale sur laquelle on skie et puis sur laquelle vous avez un arbre qui essaye de se réchauffer. Juste là, on l'a vu repasser. Voilà. Sur ce, on a publié le résultat, on l'a envoyé à Nature. Et puis, Nature nous a répondu au bout de quelques temps avec cette phrase remarquable, you can't bend nature. Ce qui veut dire, c'est un jeu de mots de mauvais goût, tu ne peux pas tendre la nature. Tu ne peux pas tricher avec nature. Voilà. Mais c'était bête. Parce que, vous voyez, l'expérience est extrêmement simple. On fait, prépare le spécimen, ça dure 3 minutes pour le mettre dans le microscope, ça dure 2 minutes pour voir les gouttes, et puis ça dure 3 minutes pour laisser chauffer, et puis il est là. Puis le diffractogramme est facile, tout le monde l'a vu. C'est-à-dire, c'est une expérience de 10 minutes, n'importe qui équipe. Alors, tout de suite, Nigel et Richard Henderson se sont dit, ouh, ça c'est intéressant. Et le technicien de Richard Henderson est arrivé, mais 2 semaines après qu'on ait fait la découverte, il est venu chez nous pour apprendre ce que c'était. Et ainsi, dès ce moment-là, le groupe de Heidelberg et le groupe Cambridge. Le groupe de Cambridge, on continue à créer. On n'a pas vraiment collaboré tout le temps, on échangeait beaucoup. Hein. Et une chose que j'ai beaucoup admirée, tous mes doctorants, ou tous les gens qui travaillent avec moi, faisaient, quand ils partaient un petit peu à l'étranger, eh bien, ils faisaient un arrêt à Cambridge, chez Nigel ou chez Richard. Et là, ça se passait toujours la même chose. Ces gens, ils l'emmenaient tout en haut sur la terrasse, et tout en haut sur la terrasse, ils discutaient. C'est un endroit fameux. Watson discutait, injuriait beaucoup de gens là-haut. Mais là-bas, Richard Henderson et Nigel Unwin discutaient complètement librement, donnant le meilleur d'eux-mêmes à n'importe qui. Ça, c'est quand même... C'est comme ça qu'est la belle science. Ayant développé cette méthode, il a fallu la faire qu'on puisse bien l'utiliser. Et derrière, il y a beaucoup de mathématiques. L'idée étant, on fait une image, on a des milliers de protéines ou de virus qui sont tous les mêmes, à peu près, presque tous les mêmes, et puis vous voyez, il y en a un qui est comme ça, il y en a un autre qui est comme ça, il y en a un autre comme ça, eh bien, c'est comme si je vous vois de là, mais de tous les côtés en même temps, eh bien, on arrive à faire une image reconstruite. Mais pour ça, il faut beaucoup de mathématiques, et des gros ordinateurs, et c'était grâce à l'arrivée de l'émergence de ces puissantes machines relativement disponibles que les progrès ont été faits. D'année en année, on améliorait nos résultats, la résolution s'améliorait, et puis un jour, c'était en 2015, Il y a eu un fameux congrès de cryomicroscopie, et là, tout le monde a constaté, on est à la résolution atomique. On voit les structures moléculaires atome par atome. Alors là, les gens de Stockholm ont dit, alors ça, c'est une bonne affaire, ça, puis on leur a donné un prix Nobel de chimie. On leur a donné un prix Nobel de chimie. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on a un prix Nobel de chimie? Eh bien, moi j'étais toujours porté aussi grâce à mon milieu familial et disons sur la notion de bien commun. Le bien commun, ben c'est un bien qui appartient à tout le monde. Et pour moi, la science a toujours été un bien commun. J'ai jamais pris un élève pensé à prendre un brevet. Et puis, aujourd'hui, je vous assure, celui qui découvre la vitrification, s'il y avait quelque chose de semblable à découvrir, ben, il fait vite un brevet. Et puis, là, je me suis dit, j'ai appris cette histoire du prix Nobel en octobre, début octobre, et puis, voilà, tu vas aller leur parler à Stockholm, et tu vas aller leur parler d'eau vitreuse. Non, tu vas leur dire des choses plus intéressantes. Tu vas leur parler de bien commun. Et voilà, alors je parlais de science comme bien commun. Et puis, les semaines qui suivirent, les mois, les années qui suivirent, furent comme vous savez. C'était donc à fin 2017. Et les années 2018, ça a été le début de ces grandes manifestations pour le climat. Et ainsi, au lieu de m'engager avec courage contre les brevets, je me suis trouvé avec les gens qui manifestaient pour le climat. Et ils me connaissaient parce que j'étais connu, et j'ai très vite pu développer des relations très sympathiques et très amicales avec ces jeunes qui défilaient là pour le climat. Je me rappelle d'une séance de coordination des grévistes du climat, donc c'est le mouvement qui est dérivé de Greta Thunberg, et là c'était à Sion, c'était à Berne, mais il y avait un groupe de Sion qui était là et qui revenait, vous voyez, un groupe de gymnasiens de Sion qui avait quitté l'école pendant presque une semaine pour aller à Katowice où avait lieu une COP. Et ils allaient là-bas pour voir que font-ils nos responsables. Et c'est là qu'ils allaient s'informer, et puis c'est là qu'ils ont fait connaissance avec Greta Thunberg, et puis c'est là qu'il y avait une ambiance tout à fait conquérante, et dans ces manifestations qui avaient lieu partout, ici à Fribourg et partout, il y avait cet enjouement et cette croyance qu'on va y arriver. Se sentir amis, proches avec ces gamins, qui ne sont plus des gamins, mais enfin c'est tout jeune, c'est quand même formidable. Et c'est très impressionnant. Et vous savez, ils ont raison. Et je ne sais pas si vous suivez, vous voyez ici, la plupart d'entre vous sont bien au courant sur les problèmes climatiques, mais vous savez que ça ne va pas. Notre société fonce droit dans un mur mortel pour notre civilisation. C'est fait comme ça. C'est foutu si on continue comme ça. C'est bête, ça. Et c'est très curieux, d'ailleurs. Il existe, moi j'appelle ça la bulle. La bulle techno-financière qui croit que qui veut que ça marche, qui veut que notre système marche. Et notre système a besoin d'huile. On va pas supprimer ça. On va tâcher de trouver des solutions. Mais tout le monde sait que ces solutions ne conviennent pas. Regardez, mais la cause. Oh, ça va pas. Alors, je ne sais pas, c'est très désagréable de se sentir en opposition formelle avec la majorité. Et en bon Suisse, on aime les compromis, on aime s'entendre, mais on ne peut pas s'entendre là-dessus. On ne peut pas foncer dans le mur en disant « ouais, ça va encore ». Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on dit « ça va pas ». Et on devrait tous dire, et on le dit à nos parlementaires, on le dit autour de nous, et on agit. Écoutez, agir, c'est important, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est il faut un changement radical de l'ensemble de notre effort politique. Il faut que nos dirigeants mènent le combat. C'est très difficile de prévoir le futur. Les scientifiques ont fait leur boulot, très proprement, et ils nous ont dit très clairement, ils ne nous ont pas dit le futur, mais ils nous ont dit le passé, le présent, et description de ces cours, passé et présent, bon, on peut imaginer ce qu'ils vont venir. Bien, ce qui va venir, ben, c'est ben, quelques années pour arriver au 5 degré, et puis avant 2000, avant 2050, on aura dépassé les deux degrés. Et ça, c'est ce que peuvent dire les scientifiques. Mais comment est-ce que ça va se passer? Qui va nous donner la réponse? Enfin, les scientifiques vont pas nous la donner. Ils nous ont donné la tendance. Elle est vraie, elle est sûre, elle est scientifique. Mais comment va-t-elle se dérouler? Oh. Ça, c'est une affaire pour les romanciers. Et il y a plusieurs personnes, il y a un scientifique de Suède, de Umeå, au sud de la Suède, Malm, et qui a étudié, qui a essayé d'imaginer ce que pourrait être le futur tenant compte de ce que l'on sait du présent. Et la leçon est renforcée ces derniers jours par les résultats de la COP. Non, on ne va pas baisser notre production de notre combustion de carbone fossile. Non, ça va continuer. Et ceux du carbone fossile, ils ne vont pas arrêter. Et si quelque part des gens veulent l'arrêter, ben ce sera la guerre. Mais la guerre, ben voilà, une guerre, ben quand on ne voudra plus, quand on ne pourra plus, ben voilà, ce bouquin, Kim Stanley Robinson, c'est un romancier américain, il est très connu. C'est la politique fiction. Et ici, bon, c'est gros, c'est presque 600 pages. Et voilà, ça commence par des scènes. Faut pas le lire le soir, hein. Et le début du bouquin, c'est la grande canicule en Inde. Alors, il a été écrit en 2020, ce livre. Et il place le début en 2023. Là, il parle de cette grande canicule en Inde où, avec 20 millions de morts. Et puis, il raconte, ben voilà, celui qui deviendra un peu le héros, le fil rouge de l'histoire et le seul survivant de tous les gens de la ville qui étaient occupés. Voilà, c'est un... Et puis, alors, ça ferait bien tout le débat. Comment il a décidé de créer, après cette catastrophe de la grande canicule, il a décidé de faire autrement. Alors on crée l'ONU, crée le ministère du futur, et qui est censé faire beaucoup plus, beaucoup plus vite. Et là, on voit ce développement qui essaye de construire sur ce que l'on a, et puis, pof, chaque fois ça tombe, ça marche pas. Et chaque fois il faut faire plus, et puis chaque fois il y a des tensions qui se montent et voilà, je ne sais pas ce que ça va finir, mais il paraît qu'il est optimiste. Et il paraît donc que la présidente de ce ministère, qui d'ailleurs, on a eu assez de mettre tous les ministères de l'ONU à Genève, alors on l'a mis à Zurich, celui-là. Voilà, c'est très charmant, je ne sais pas pourquoi il l'a mis à Zurich, mais c'est un bon Américain, lui. Et voilà, moi je vous conseille celui-là. Bon, ben c'est de la science-fiction, mais notre avenir, on le sait, il ne va pas comme ça. Alors comment changer? Voilà, ben c'est ce que j'ai à vous dire. Puis on a fait 45 minutes. On peut faire quelque chose, mais il faut le faire beaucoup plus fort. Et il faut sortir de notre bulle. Mais la bulle, elle va crever. Elle va, la bulle, vous avez compris ce que c'est? C'est ce système et techno financier qui résiste tellement bien. Madame Thatcher disait, il n'y a pas d'autre solution. Oui, mais la solution est crevée. Elle est foutue. Elle ne peut pas tenir. Parce que, pas parce qu'il y a des braves gens qui ne sont pas contents, mais parce que la Terre n'est pas d'accord. Alors souvent, il y a les gauchistes, les marxistes là, les gens de la droite ici, et puis on se bat là-dessus. Mais non, c'est pas entre eux, c'est nous avec la Terre. Et la Terre, elle va pas abandonner, on va pas pouvoir l'acheter. Donc, faudra faire ce qu'il faudra, faudra s'entendre avec elle. Et vous savez, c'est faisable. Et pour commencer, il faut sortir de l'industrie fossile. Et puis il faut le faire très vite. Mais on peut le faire très vite. Il faudrait se secourir, il faudrait ficher tout loin toutes les bagnoles. Parce qu'évidemment, les bagnoles électriques, ce n'est pas beaucoup mieux que les bagnoles à carburant fossile. Mais c'est quand même tout le système qui est là. Donc voilà, moi je vais m'arrêter.
On va faire un cappella.
Oui.
Vous êtes un optimiste adéquat. Ah, ou presque. Ah.
Non. Écoutez, j'ai un petit enfant,
oui.
J'ai des enfants, je ne veux pas les abandonner. Ni vous, ni nous tous. Je vous ai même dit que j'aime le bien commun. Hein? Nous sommes le bien commun. Et c'est quand même notre seule vraie valeur. C'est pas le fric qui va nous sauver.
Et nous voilà finis. J'espère que vous avez profité de la conférence de Jacques Dubochet. Merci de nouveau au Musée d'Histoire Naturelle de Fribourg de m'avoir laissé enregistrer cette conférence. Comme ça, les personnes qui, comme moi, n'avons pas pu être présentes, nous avons pu profiter de l'énergie des Dubochet. À vous qui écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec vos connaissances. Dans les prochains épisodes de Rethink and React, on parlera de low-tech et très probablement à nouveau d'agriculture. Si vous n'avez pas écouté le dernier épisode que je vous ai mis en ligne cette année 2024, c'était « Les défis d'une agriculture saine », conversation avec Hélène Grosbois et Antoine Hensch. Je vous conseille vivement d'aller l'écouter. C'est une conversation très enrichissante et inspirante. Je vous avais aussi rediffusé l'épisode de « Itopie, faire l'informatique autrement » avec Samuel Chenal de Genève et l'épisode avec l'avocate Tali Pachou. Je suis écolo, mais mes finances ne le sont pas. Enfin, il y a plus que 40 épisodes dans le podcast, donc vous pouvez vous promener et certainement écouter un des épisodes que vous n'avez pas encore découvert. Prenez soin de vous, de votre environnement, et à bientôt! Rethink. React.